poisson il arrive. Bouge pas mon lapin, poisson qui vient.
À mon avis, c'est pas un gros ça.
CO2 mon amour.
Un rouge et grondin peut-être. Ou alors une dorade. Bah, je l'ai ferré là. Oh la vache. Ah je... La carne là, je bataille. Je bataille. Oh putain. Ah la vache.
Avec Denis Chessou.
Regarde, regarde-moi ça.
Mais non, c'est minuscule celui-là. Il est adulte, tu crois? Regarde-moi ça, mais ça c'est un nain ça. Tu penses, j'ai rarement vu plus petit, hein. S'il faut aller au large pour attraper des merdes pareilles.
Sur France Inter.
Ça peut arriver, ça aussi, dans les océans. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement. CO2 mon amour, une émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature. Et aujourd'hui, on va se rapprocher de l'écume, on va se rapprocher des grands fonds, on va essayer de se rapprocher de nos merveilleux océans avant d'y patauger dedans durant nos et vos vacances. À la technique, il y a Florent Beauvallet et Vincent Godard aujourd'hui, assisté de Camille Blanès avec Alice Michaud, notre stagiaire. C'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Et qui ne va pas commencer par la mer du tout. Non, pas du tout. Qu'est-ce qui fait bzit et pas encore le buzz, qui a du mal à prendre de l'altitude comme un cargo soute chargé et qui traîne son joli petit cul blanc au ras des pâquerettes ou des rosiers? Eh bien, c'est le bourdon terrestre, un gros porteur qui, bien que n'ayant ni la notoriété internationale de sa cousine Apis mellifera, donc l'abeille, ni son importance économique, reste parfois considéré comme inutile dans son trou, un insignifiant tâcheron de la pollinisation universelle. Dans les prairies sans fleurs et les mornes étendues de blé, soja, colza et autres cultures industrielles désinfectées, bon, il a plus le droit de citer, expulsé, et avec lui des millions de coléoptères, de papillons qui donnent un air de fête à la nature en été. Alors resterons-nous avec nos magnifiques écrans numériques de nature et des pare-brises impeccables pour nos rondes de nuit? Ah, c'est pourtant pas faute d'avoir prévenu. Le charançon de la banane, tenez, lui, il a survécu à 11 ans de chlordécone aux Antilles, mais les terres, les eaux, les sols de la, et la santé des hommes, eux, sont vraiment véritablement infectés. Pour au moins, on dit, allez, 600 ans. Il fallait continuer à produire et à vendre ce fruit délicieux, même au prix volontairement assumé d'un cynisme d'État et industriel tout à fait criminel. Un produit dangereux, d'ailleurs interdit à juste titre aux États-Unis, mais qui était assez bon pour nos départements d'outre-mer. Vital, impératif des marchés, il fallait écouler le stock. Alors, hier chlordécone, aujourd'hui glyphosate, la même chanson, une insulte à tous ceux qui pensent et travaillent autrement. Les phéromones existent, hein, elles sont efficaces, et la banane bio, venue des contrées clairvoyantes, se vend, elle, très très bien. Alors roule petit bourdon dans nos jardins, ne t'en fais pas, on est avec toi. Botanique, magasin sans pesticides depuis longtemps, a lancé une nouvelle ruche à bourdons pour éviter justement de l'attraper, c'est amusant. Les bourdons sont parmi les pollinisateurs quand même les plus performants. En plus de travailler rapidement, le bourdon vole plus longtemps. Il vole quotidiennement jusqu'à 4 heures de plus que les abeilles, par exemple. Et autre atout, il supporte bien les matinées et soirées fraîches et travaille aussi plus que le temps. Il travaille davantage lorsque le temps est capricieux. Alors moi, je serai le MEDEF. Eh ben, le bourdon, j'en ferai mon emblème. Pour recommencer, juste avant les océans, une petite actualité tout à fait intéressante. Vous allez comprendre pourquoi. Valérie Cabanès est avec nous. Bonjour à vous, Valérie Cabanès. Vous êtes juriste en droit international. Et donc, bah, vous relancez notre constitution écologique, s'il vous plaît. De quoi s'agit-il?
Bonjour. Alors, en fait, on a profité, effectivement, du souhait d'Emmanuel Macron de changer la constitution pour s'engouffrer dans la brèche. Et donc, dès novembre, avec Notre Affaire à Tous, qui est une association que j'ai cofondée avec Marie Toussaint et d'autres juristes en 2015, on a fait donc une première proposition pour réformer l'article 1 de la Constitution. Et j'ai aussi effectivement travaillé avec Dominique Bourg dans le cadre de la Fondation NIC pour la Nature et l'Homme en décembre-janvier. Et donc, nos deux associations ont proposé donc d'inscrire à l'article 1, donc à donner des valeurs constitutionnelles à la préservation du climat, de la biodiversité, dans le respect des limites planétaires. C'est-à-dire reconnaître aujourd'hui que notre activité industrielle doit se limiter de façon à ne pas dépasser de certains seuils qui mettent en péril finalement l'hospitalité de la Terre et donc les générations futures.
Et ça met évidemment aussi en péril, on va dire, le fameux PIB qui est l'art de compter ce que l'on gagne mais jamais ce que l'on doit, parce que la logique, on va dire, folle et actuelle, c'est bien celle-là. Donc est-ce que ces fameuses limites vont pouvoir être inscrites ?
Pour l'instant, ça reste compliqué pour les limites planétaires, pour les raisons que vous venez d'évoquer. C'est pas une raison pour lâcher la peine.
Pas du tout.
En revanche, on est en train d'avancer sur le climat et la biodiversité. En fait, il y a d'abord eu un moment de doute en mars, quand l'Élysée a annoncé que finalement, il changerait pas l'article 1, mais l'article 34, en confiant aux législateurs, finalement, le choix de prendre de rédiger des lois qui prennent en considération le climat, mais ça n'avait pas d'effet contraignant, donc on s'est plaint. Et on a profité donc le 22 avril du jour de la Terre pour lancer ce fameux appel pour une constitution écologique qui a été rejoint aujourd'hui par 24 ONG et qui pèse actuellement sur les discussions qui sont en cours au sein de la commission développement durable à l'Assemblée, qui semble donc commencer à pencher pour pouvoir inscrire donc le climat et la biodiversité comme des valeurs constitutionnelles à préserver, mais on reste très vigilant. Voilà, parce que là on a par exemple en ce moment Christophe Aran qui propose un amendement pour dire bah, finalement il suffirait de dire préservons l'environnement. Bon, ça c'est déjà dans la charte de l'environnement, c'est pas du tout suffisant. D'autres qui disent est-ce qu'on pourrait pas changer le principe de précaution par un principe d'innovation responsable, ça c'est une catastrophe. Voilà, on demande en fait à ce que enfin l'État français comprenne que il y a une relation écosystémique entre ces différentes limites planétaires. Le climat emballe l'érosion de la biodiversité. La déforestation emballe le climat et qu'il faut donc cette vision écosystémique dans la Constitution, qu'il faut donc préserver le climat et la biodiversité. Et puis on est très heureux parce que le député Colombani Corse vient d'aller encore plus loin. Il a proposé un amendement qui va dans le sens de ce que je défends moi depuis déjà 2013, qui est de reconnaître finalement des droits à la nature et donc de dire que, par exemple, dans la charte de l'environnement, on ne parle plus de préserver l'environnement comme le patrimoine commun des humains, mais de l'ensemble des êtres vivants.
S'il y a, Valérie Cabanès, une réécriture de cet article 1, est-ce que ce sera contraignant ou non ?
Oui, ce sera contraignant. L'intérêt de mettre dans la Constitution la préservation des écosystèmes, c'est que ça devient effectivement une valeur qu'aucun législateur ensuite ne peut remettre en question. Ça veut dire que nous pouvons, citoyens, utiliser la Constitution pour attaquer en justice, par exemple, des multinationales ou des décisions de l'État qui vont à l'encontre de la Constitution. Donc c'est extrêmement puissant et je pense que c'est une vraie solution aujourd'hui par rapport aux défis climatiques et à l'urgence environnementale.
Alors suite lors du débat parlementaire autour de la réforme constitutionnelle, ce sera mi-juillet par voie référendaire ou parlementaire. Voilà, donc merci à vous Valérie Cabanès. On va s'intéresser à l'océan. Cher Hugo Verlhomme, bonjour à vous.
Bonjour Denis.
Alors cher Hugo Verlhomme, vous avez donc, on vous connaît, ça ne remonte pas hier, parce que je crois que c'est dans les années 80, je vous avais reçu pour Mère, donc qui était quand même ce truc absolument incroyable. Je disais que tous les jeunes l'avaient lu, et tant mieux, comme d'ailleurs aussi L'Homme des Vagues. Et vous avez une vie qui est guidée, qui est sous-tendue véritablement par la mer, d'un côté l'écriture, de l'autre l'océan qui est là. On vous doit aussi pas mal de guides du voyage en cargo. Et puis là, vous venez de sortir, chez Albin Michel, Demain l'océan, des milliers d'initiatives pour sauver la mer et l'humanité. Et j'aime bien ce que vous avez une phrase, vous dites que vous êtes sûr de la mer, que vous n'avez jamais douté de la mer.
Il y a peu de choses sur Terre dont on peut ne pas douter à part notre propre mort. Et c'est vrai que l'océan, pour moi, c'est complètement occulté de la vie mondiale. L'océan devrait faire partie de la philosophie, de l'histoire, des mathématiques, de la géographie. Ça devrait être partie prenante. 71% de la planète. La France est le deuxième territoire maritime mondial et on semble l'oublier complètement. Donc c'est vrai que moi j'ai eu la chance d'être dans les baïnes de l'océan Atlantique quand j'avais quelques mois. Donc c'était au début des années 50. À l'époque, personne ne fréquentait la plage. Les gens n'allaient pas se baigner, il n'y avait pas de surf. Et ce jour-là, enfin cet été-là, quand j'étais dans l'océan, quelque chose s'est passé comme un baptême cosmique. Et plus jamais l'océan n'est sorti de mes veines. Même quand j'ai vécu dans les montagnes suisses ou dans les montagnes de Colombie-Britannique avec les ours et la forêt, j'avais toujours l'impression d'être quand même dans l'océan, puisque les gens l'oublient un peu, mais toute vie, le baobab, la fourmi, le chimpanzé, tout ça est sorti de l'océan un jour. Et Saint-Germain, quand on a fait le métro à Saint-Germain, on a trouvé des hippopotames, des crocodiles dans le sol préhistorique. Donc moi, la mer, je la retrouve partout. Je la retrouve dans les fossiles de Paris.
Dans les ruisseaux des montagnes, dans les flocons de la neige.
Absolument. Aussi. Et c'est ça qui est important. Je pense que l'océan a été complètement sorti de notre vie. On a tourné le dos à l'océan alors qu'on en est sorti. Et il est plus que temps que l'humanité fasse une volte-face, qu'on s'océanise. Et je dis pas ça par goût de l'océan, parce que je suis un passionné d'océan, mais c'est le seul futur qu'on a sur Terre, c'est de faire face à l'océan, de se tourner vers lui, de retrouver nos racines océanes et d'apprendre à, évidemment, d'abord le protéger et puis en tirer des richesses fantastiques qu'on ignore, puisqu'on ignore, on connaît moins de 10% de la biodiversité marine et on connaît moins de 5% des fonds marins. Ouais. Et on envoie des fusées à l'autre bout de la galaxie chercher ce qu'on a ici, c'est-à-dire d'une vie intraterrestre, extraterrestre et un territoire gigantesque. La haute mer, c'est 65% de l'océan, puisqu'on dit plus les océans, on dit l'océan. Et c'est 45% de la planète, c'est la haute mer, c'est-à-dire ça n'appartient à personne, c'est le territoire du futur.
Alors il y a un homme qui ne va pas vous contredire, mais qui vous écoute avec attention, c'est José Manuel Labarque. Bonjour José Manuel.
Bonjour Denis.
Bonjour, je suis ravi de vous avoir à ce micro, parce que vous êtes expert en géopolitique, vous êtes aussi expert en affaires maritimes, vous êtes sociétaire de la société.
Notre président aime beaucoup ça, Olivier Archambault.
Bon d'accord, donc sociétaire des explorateurs français, voilà. Et puis vous tenez aussi le journal de l'Outre-mer, que l'on peut entendre avec Hélène Roussel donc tous les matins sur France Inter. L'océan, c'est quoi pour vous? Effectivement, là, vous avez déjà beaucoup de choses qui ont été dites.
On a entendu des paroles.
Vous, l'homme basque de Bayonne.
Voilà, j'ai bu des paroles, c'est le cas de le dire, avec de l'eau salée, mais n'oublions pas que le philosophe grec avait dit qu'il y a trois sortes d'humains, les vivants, les morts et ceux qui prennent la mer.
C'est ça.
C'était déjà la Grèce. L'océan, c'est tout. Je pense que, moi, je dis toujours, il y a les terriens et les mériens.
Ouais.
Voilà, les terriens, c'est les terriens, c'est ceux qui ont le dos à la mer, puis les mériens comprennent. La différence, c'est que le mérien, que ce soit l'homme de la côte, de l'homme du littoral, ou la femme, bien évidemment, le mérien, si c'est son métier, si c'est sa passion, je prends le cas du cluster maritime français, ça c'est l'œuvre de Francis Valla, aujourd'hui le président, c'est Frédéric Moncagny de Saint-Aignan, ils ont fait un truc extraordinaire, ça regroupe tout le monde marin français, c'est-à-dire des gens qui se parlaient pas, que ce soit les civils, que ce soit les militaires, alors que ce soit les pétroliers, que ce soit les ingénieurs, les juristes, par exemple, les juristes, bien sûr, les armateurs, tout le monde se retrouve autour de ce cluster. Et ce qui est fabuleux autour du cluster maritime français, ben c'est des mériens. C'est peut-être leur job. Ils vont peut-être transporter des marchandises à l'autre bout du monde. Ils vont peut-être faire des recherches avec l'Ifremer. Vous avez raison, c'est 10% de la vie qu'on connaît dans le fond des mers, pas plus. Mais tous ces gens-là, ils pensent mer, ils vivent mer. Ça veut dire que d'abord, ils sont humbles. Ils respectent la mer, ils savent pertinemment que face aux terriens qui n'ont pas du tout respecté la terre et qui ont foutu la terre en l'air, il n'est pas question de faire couler la mer. Et moi, je crois que ça, c'est très important.
Alors, on va évidemment détailler un peu tout cela, ces grandes idées, avec vous aussi, Frédéric Danhé. Je vous propose de partir avec cette première chanson choisie par notre programmatrice. Je la découvre comme vous, Arctic Monkeys.
Way. Start your free trial today. Come on in the waters, lovely look. You could meet someone you like. You're in the meat of your strike. It is that easy. Lunar surface on a Saturday night. Dressed up in silver and white. With colored old grey whistle test lights. Take it easy for a little while. Come and stay with us. It's such an easy flight. Take it easy.
partez pas.
Si, Gérard, c'est toi qui m'as dit qu'il était parti avec des camarades sur un bateau.
Sur un bateau? Pour aller où?
Au Havre.
CO2, mon amour.
Au Havre? Mais il leur faut 4 jours pour descendre au Havre, c'est facile de les retrouver avant.
En revenant à la police fluviale.
Mais pourquoi pas la presse, la télévision, le bureau des personnes disparues?
C'est juste.
Qu'est-ce que vous dites?
C'est juste.
Bon, allez hop, comment il est le bateau?
C'est un voilier.
De quelle couleur?
Avec des grandes voiles rayées rouge et noir.
Une grande voile rayée rouge et noir.
C'est joli, ça.
Sur France Inter.
Calme-moi, Joanne. Calme-moi!
Ah, et maintenant quoi? Eh bien, bah, le Cousteau. Alors, le Cousteau, ce n'est pas le nom d'un poisson, non, c'était Jackie, vous le savez très bien. Et cet homme-là, bah, quand même, nous a fait rêver, alors, il a été contesté, tout ce que l'on veut, mais quand même, et en 77, que disait-il sur les océans?
Dans certaines zones côtières, elle est très malade. Et la maladie s'étend non seulement avec l'augmentation de la population, mais avec le développement inconsidéré de l'industrie. Quand je dis le développement inconsidéré de l'industrie, je ne suis pas contre le développement de l'industrie, je voudrais qu'on le fasse proprement au lieu de le faire n'importe comment. Et les zones côtières sont déjà très abîmées en beaucoup de points, surtout évidemment au voisinage des agglomérations urbaines ou industrielles. Les eaux du large sont encore assez saines, mais on sent que le dommage augmente d'année en année. Alors, il y a eu, dans certains endroits, des efforts méritoires de fait, mais ces efforts ne sont pas à l'échelle de ce qui se passe. Ce qui détruit la mer, ce sont les produits toxiques que l'industrie, quand elle n'est pas contrôlée, déverse inconsidérément dans la mer.
Alors bien sûr, homme libre, toujours tu chériras la mer, d'accord, merci Baudelaire, mais tu chériras et tu ne pollueras pas et tu ne pilleras pas la mer. Et là, évidemment, ça commence à se gâter un petit peu et en plus, on la plastifie énormément. Et à côté de cela, Hugo Verlhomme, dans cet ouvrage « Demain l'océan, des milliers d'initiatives pour sauver la mer et l'humanité », eh ben ça y est, c'est parti avec la digitalisation. Là, on a des sciences participatives qui sont en train d'évoluer très très fort.
Alors c'est vrai, mais au-delà des sciences participatives, par rapport au plastique, parce que on nous abreuve des problèmes de plastique dans l'océan qui sont réels malheureusement, sauf que l'histoire des continents de plastique, tout ça n'est pas vraiment exact, comme on le voit dans le livre, ça a été démontré. Par contre, malheureusement, c'est vrai qu'il y a du plastique partout. Mais il y a ce jeune Hollandais qui s'appelle Boy Anslat, qui avait créé quelque chose d'un peu utopique au départ.
Il a 24 ans aujourd'hui, ou 25 ans.
Oui, voilà, il a quand même levé 34 millions de dollars à lui tout seul avec un TEDx. Et au départ, il voulait nettoyer les gyres océaniques, tout ça c'était un peu utopique. Et puis, il y a un chiffre qui est sorti dans Nature il y a quelques mois, qui est une bombe dont on n'a pas assez parlé, qui dit que 86% de tous les plastiques présents dans l'océan viennent d'une dizaine de fleuves seulement en Asie et en Afrique. Donc ça, c'est une nouvelle énorme. Pourquoi ? Parce que les barrages flottants imaginés par Boy Anslat, qui étaient un peu utopiques pour le milieu de l'océan, deviennent carrément géniaux et utiles si on les met dans les estuaires de ces dizaines de fleuves qui viennent de Chine, d'Inde, etc., d'Afrique, pour arrêter les macroplastiques, les empêcher de devenir ces fameux microplastiques qu'on ne peut plus nettoyer une fois qu'ils sont dans l'océan, qui ont la taille du plancton, donc qui entrent dans la chaîne alimentaire, etc. Mais voilà, 86% de tous les plastiques viennent d'une dizaine de fleuves, donc là, on peut vraiment faire quelque chose d'extraordinaire.
Exactement. Et dans le top 10, j'ai vu que le coton-tige était très très bien placé. Hein,
donc mais oui, bien sûr, moi je me promène souvent sur les plages, puisque j'habite à 300 mètres de la plage de Cabreton-Osgore, et c'est vrai que c'est le bâtonnet de coton-tige, c'est ce qu'on trouve le plus. Mais donc, il y a quand même des moyens aujourd'hui de faire des bâtonnets autrement qu'en plastique non biodégradable.
Alors, 8 millions de tonnes, évidemment, par an qui sont déversées comme ça, donc des microparticules dans tous les sens. Pour ça, les émissions ont été faites et refaites. On voit que la Méditerranée se noie donc aussi dans le plastique. Mais enfin, voilà, alors on voit bien des tas d'initiatives entre des bateaux qui sont faits pour récolter aujourd'hui et demain le plastique, pour le transformer donc après en pétrole. Mais moi, je reviens quand même sur les sciences participatives, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, chacun, même derrière son ordinateur, même s'il n'est pas au bord d'une plage, peut faire quelque chose du
gouvernement. Ça, c'est vraiment
extraordinaire. Ça, vous le pointez bien dans votre
ouvrage. J'ai découvert ça en faisant le livre, à quel point aujourd'hui, avec un smartphone ou avec un ordinateur, on peut agir. C'est-à-dire que même quelqu'un qui serait à mobilité réduite et passionné d'informatique ou de jeux vidéo, eh ben, il peut faire quelque chose. Par exemple, la fondation Leonardo DiCaprio, aidée par Google, a créé un site qui s'appelle Global Fishing Watch. Et ce site, qui est ouvert à tous les internautes du monde, représente la terre entière, enfin la mer entière, avec toutes les zones protégées. Or, vous savez que chaque bateau possède un transpondeur, le système AIS, automatique d'identification, et que grâce à des algorithmes extrêmement complexes, ils ont réussi à ce qu'on puisse pointer les bateaux de pêche illégale. Et donc un internaute, en se renseignant un peu, en regardant les calques et en regardant comment ça fonctionne, peut, et d'ailleurs ça s'est fait à plusieurs reprises, puisque moi je suis abonné, je reçois, voilà, des bateaux ont été interceptés grâce à des internautes qui ont regardé, qui ont dit « Ah bah tiens, ce bateau-là, il rentre dans une zone interdite, c'est louche. » Alors vous allez me dire « Oui, mais ils peuvent débrancher le transpondeur. Mmh. » Bah, un bateau qui débranche son transpondeur, immédiatement, il est pointé, fiché, si l'on peut dire. Et il y a des tas d'autres initiatives. Aussi, Ifremer, par exemple, a mis des caméras sur les dorsales océaniques pour surveiller ce qui se passe, la vie, puisque vous savez que ces dorsales, avec les fumeurs et tout ça, sont des endroits où on pensait que la vie était impossible. Mais seulement, on n'a pas des gens d'Ifremer assez nombreux.
On rappelle qu'il y a de la vie qui existe en grande profondeur, sans photosynthèse, qu'on appelle les grands fumeurs noirs, qui peuvent être à 3000 mètres.
Avec de l'hydrogène sulfuré, enfin des tas de conditions. Et donc, comme on ne peut pas surveiller ça, il n'y a pas assez de monde pour passer du temps à regarder les caméras, et bien tout ça est en accès libre sur Internet, et tout le monde peut surveiller ça. Alors vous allez me dire, oui, mais comment moi, simple citoyen? Ben non, parce qu'on vous donne les outils pédagogiques, on vous dit, voilà ce que vous trouvez normalement. Si vous voyez une créature qui ne ressemble pas à ça, ou quoi que ce soit d'un peu différent, on vous donne un crayon virtuel, vous l'encerclez, vous appuyez et ça part à l'Ifremer. Ben récemment, il y avait un couple comme ça qui regardait, ça s'appelle Espion des Grands Fonds, qui regardait ça. Ils ont dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Ils ont appuyé et quelques semaines après, on leur envoyait un mot disant, vous venez de découvrir une nouvelle espèce vivante.
José Manuel, la marque.
Je suis tout à fait d'accord avec Hugo et c'est très bien ce qu'il dit. Il y a plusieurs types de pollution en mer. Alors bien sûr, il y a les plastiques, bien sûr, il y a les hydrocarbures. Il y a une autre pollution qui a été étudiée par le Centre d'études stratégiques de la Marine. C'est la pollution sonore. On part du principe, on parle beaucoup de la Méditerranée. Les fameux scooters des mers qui plaisent bien à tout le monde. Bon, le scooter des mers, quand il passe sur l'eau, bien sûr, puisqu'il n'est pas sous-marin, il passe sur l'eau. Mais ce qu'il envoie au fond de la mer, ça fait partir, ça chasse les poissons et ça chasse aussi la flore. Il faut savoir que la pollution sonore, elle est très très importante. Alors bien sûr, un gros cargo, ça va pas beaucoup polluer. Mais il y a tout un tas de petits bateaux comme ça, de scooters des mers. On peut dire qu'ils foutent un vrai bordel. Et puis il y a une autre pollution aussi qui existe. Et celle-là, il faut le dire pour la Méditerranée, pour d'autres côtes, mais surtout la Méditerranée. C'est maintenant ces immeubles flottants. Il y a 8000 passagers. Mais vous imaginez, alors on en parlait tout
la
à l'heure.
La France va construire 3 de nouveau voilà. Là, à Saint-Nazaire.
Ça fonctionne au fioul lourd. Donc en ce moment, quand on est sur un port, il faut faire fonctionner les moteurs parce que tout le monde veut l'électricité, donc ça dégage du soufre. Mais c'est ces monstres des mers. Enfin, il y a des compagnies sérieuses en France comme Le Ponant qui ont des bateaux à taille humaine. Non, là, il y a 8000 passagers. Vous imaginez ces bateaux-là, quand ils débarquent dans une île où il y a 800 habitants, ils vous débarquent 8000 personnes. Mais l'île, elle est foutue. Elle est foutue. Moi, je dis une chose, je pense que la première des pollutions au monde aussi, il faut le dire, c'est le tourisme. Quand on voit absolument ce qui se passe en Méditerranée, mais c'est le tourisme qui pollue. Parce que vous prenez l'île d'Ibiza, il y a 3 ans, il n'y avait plus d'eau à Ibiza. Mais pourquoi? Il y a un avion qui décolle et qui atterrit toutes les 2 minutes. Il y a un touriste. Par touriste, il faut combien de litres d'eau? Pour la douche, pour laver les vêtements, pour la serviette, etc. Et on est content comme ça. Mais moi, je vous garantis d'un truc, c'est que si jamais on a un tsunami en Méditerranée, la première île à disparaître, c'est Ibiza. Parce que c'est l'anti-tourisme Ibiza. Et les Grecs l'ont bien compris, parce qu'il y a beaucoup d'îles grecques qui veulent pas faire comme Ibiza. Et il faut pas oublier un truc, c'est que l'on prenne Venise, que l'on prenne Barcelone, aujourd'hui c'est Santorin. Les maires refusent d'avoir ces paquebots. À Kvar, en Croatie, le maire de Kvar ne veut plus de touristes. Les Cinque Terre, en Italie, les maires demandent des quotas de touristes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Méditerranée, on en a marre du tourisme, parce que c'est la première pollution. Et en plus, quand on se retrouve avec l'all inclusive, bien, ce sont des gens, vous prenez des germano-scandinavo-protestants, qui sont dans leur camp, non pas de concentration, mais leur camp de vacances, à manger leurs saucisses et boire leur bouteille de bière, mais qui vont même pas regarder le village qui est à côté. Alors, le problème de la Méditerranée pour la pollution, c'est le tourisme. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Il faut dire aussi qu'il y a des gens qui font du tourisme, il y a des agences qui font du tourisme et qui sont honnêtes. Panayotis Grigorio, par exemple, à Athènes, il fait du tourisme. Il emmène des touristes avec lui sur son bateau, en voiture. C'est du tourisme honnête. On a des agences de tourisme honnête en France, et je le redis, pour les croisières, au lieu d'être sur un bateau avec votre plateau repas comme à la cantine, allez sur le Ponant. Ça sera beaucoup plus
humain. Merci pour ce coup de gueule. C'était très bien. Là, vous étiez bien chaud. là c'était parfait, donc on a bien compris de toutes les pollutions, le plastique, les hydrocarbures, les pollutions diverses et variées, et donc le tourisme de masse. Voilà, joie, bonheur. Cher Frédéric,
oui,
dites-nous comment ça fonctionne, la mer ou bien les océans, donc entre guillemets, à quoi ça nous sert, ces 71% de surface terrestre. D'ailleurs, c'est vrai que l'être humain, il était sur la Terre, donc il a baptisé ça la Terre, il devrait dire la mer, mais bon, c'est comme ça. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça nous apporte?
Mais ça nous sert à tout, Denis. Et c'est pas un mérien qui vous parle, c'est un sous-mérien qui a fait des milliers de plongées un peu partout, notamment en Méditerranée, sur des endroits...
Heureux homme,
ben oui. Ça nous sert à quoi? Ça sert à tout. Ça nous sert à absorber la moitié, à peu près, un bon quart du CO2 qu'on émet dans l'atmosphère. Ça nous sert à respirer, parce que l'oxygène, il est né d'une certaine forme de vie qui sont nées en mer. Faut jamais oublier que l'océan, d'abord, c'est une précipitation de l'atmosphère. Hein. C'est le ciel qui est tombé sur la Terre, hein, toute l'eau qu'il y avait dans l'atmosphère s'est précipitée, ça a rempli les trous, ça a donné l'océan, et puisqu'il y avait plein de molécules dedans, dans ce bouillon de culture, est apparue la vie, et dans cette vie est apparue celle qui a fabriqué l'oxygène, sans lequel nous ne pourrions pas respirer. La mer, ça bouge, la mer, ça crée, ça génère des vents, et puis il y a le cycle de l'eau qui s'opère sur la mer. Hein. L'eau s'évapore, elle va former des nuages, elle va se condenser, elle va pleuvoir ailleurs. Et ben ça fait quoi? Ça fait les climats. Vous savez, la superposition des climats entre l'équateur et les pôles, c'est la mer qui le dirige. Et puis cette collusion entre les grands courants marins qui forment ces gyres, hein, ces grands courants circulaires à l'échelle de chaque demi-océan, cette collusion des courants et des vents, ça crée par endroits là les 5-6 grandes zones de pêche qui n'existent que par la remontée des courants froids, ce qu'on appelle les upwelling. Voilà, la mer, c'est le berceau de tout, c'est notre berceau, c'est le berceau de la vie, c'est le berceau de l'intelligence. Je ne dirai jamais assez mon amour pour les céphalopodes.
Mais oui.
Poulpe, voilà, j'aime
vous
le poulpe.
Vous aimez les poulpes.
Bravo.
Bravo. Merci, voilà,
bravo.
J'aime le poulpe.
Le céphalopode est l'être humain le plus intelligent au monde.
Oui. Je suis bien d'accord.
C'est le poulpe.
Et malgré tout, donc la mer aussi a développé nos sociétés, a développé notre intelligence, parce que on y est allé, on y était confronté à nous-mêmes. Et enfin, la mer, bah, c'est la mémoire de toute notre économie. On retrouve encore aujourd'hui dans la Grèce des baleineaux qui naissent au fin fond de l'Antarctique, les polluants interdits à 60 ans. Aujourd'hui, c'est le plastique. Et bien avant, c'était le DDT ou les PCB.
Et dans cette mer, il y a aussi le corail. Le corail, donc, qu'est-ce que c'est, rappelez-nous? C'est un animal.
C'est un animal qui ne bouge pas, qui vit en colonie, voilà, et avec des algues symbiotiques. C'est 1% de la surface des océans, mais c'est 80% de la biomasse fabriquée dans les océans tropicaux.
Alors, on va rejoindre Hélène Lepowski, qui est secrétaire générale de Coral Guardian, puisqu'on est aussi dans les solutions, donc dans cette émission, une association qui a été créée en 2012. Donc, qu'est-ce que vous faites de beau? Bonjour à vous. Qu'est-ce que vous faites de beau, Hélène?
Coral Guardian œuvre pour la préservation des récifs coralliens et particulièrement pour les populations qui en dépendent. Ces missions sont de sensibiliser à l'importance des coraux et aux dangers qui les menacent, de restaurer et protéger les récifs endommagés ou détruits, et d'accompagner des populations côtières qui dépendent intégralement de la pêche pour gérer durablement leurs ressources.
Alors, nous avons différentes, on va dire, barrières de corail, ou pas forcément d'ailleurs des barrières. Dans le monde, vous travaillez sur lesquelles?
Alors nous travaillons principalement en Indonésie, où nous avons notre projet pilote au large de l'île de Flores et près du parc de Komodo, qui est bien connu pour ses varans.
Pour les fameux dragons de Komodo. Qu'est-ce que vous faites? Vous formez des pêcheurs?
On travaille main dans la main avec des villages de pêcheurs là-bas pour restaurer et protéger les récifs. Donc ces pêcheurs qui sont principalement descendants du peuple Bajo, les nomades des mers d'Indonésie, pêchaient encore récemment à la dynamite et au cyanure. Alors, ce sont des techniques qui rapportent beaucoup de poissons, très facilement.
Comme la pêche électrique.
Voilà, exactement. Et qui détruisent les récifs. Et s'il n'y a plus de récifs, il n'y a plus de poissons. Et les pêcheurs doivent s'éloigner et prendre davantage de risques pour rapporter de quoi nourrir leur famille. Alors, Coral Guardian a donc formé ses pêcheurs à replanter le corail. Oui, il est possible de le replanter, oui. Ou plus exactement, le bouturer. Alors, il existe plusieurs techniques, mais celle employée par Coral Guardian consiste à ramasser des petits morceaux de coraux qui ont été brisés soit par les vagues, soit par les bateaux, et de les couper à la taille adaptée. Et les boutures sont ensuite solidement attachées à des structures métalliques, des tables de culture, qui sont ensuite disposées au fond de l'eau, à des profondeurs différentes selon les espèces.
Depuis que vous avez replanté ou fait replanter du corail, quels sont les résultats?
aujourd'hui, les pêcheurs ont planté 26 000 coraux. Et on a vu que le nombre de poissons sur les zones restaurées a été multiplié par 3. Donc le corail grandit très vite, plusieurs centimètres par mois, et on voit que la biodiversité se reconstruit très rapidement. Et donc c'est encourageant pour ces pêcheurs, qui donc de pêcheurs sont devenus coralliculteurs, protègent désormais leurs ressources et se rendent compte qu'en fait, que sans les coraux, ils ne peuvent plus avoir de poissons pour se nourrir.
Alors ça semble évidemment être réversible, hein, ce qui est évidemment une très bonne nouvelle pour tout le monde. Maintenant, la suite, qu'est-ce que ça peut être? Parce qu'il faut aussi quand même que les États suivent sur cette affaire-là.
Parfaitement, notamment, je pense, la France, qui a un rôle essentiel à jouer. Parce que on oublie souvent que la Nouvelle-Calédonie détient la deuxième plus grande barrière de corail au monde, derrière la grande barrière d'Australie. Et la France est d'ailleurs le seul pays à avoir des récifs coralliens dans les trois océans avec ses dom-toms. Sans oublier bien sûr le corail de Méditerranée.
Et si vous voulez donc les aider et adopter aussi un corail, et ben coralguardian.org, vous avez tout sur le site grâce à Anne Gouzon, le site de CO2 Mon Amour. Et peut-être une chanson, hein, signée Muriel Pérez. Non, c'est pas elle qui la chante, mais c'est elle qui l'avait choisie.
Tu m'as dit que j'étais faite pour une drôle de vie. J'ai des idées dans la tête et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma drôle de vie. Je te verrai tous les jours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime. Ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment. Tes drôles de poèmes et viens avec moi. On est partis tous les deux pour une drôle de vie. On est toujours amoureux et on fait ce qu'on a envie. Tu as sûrement fait le tour de ma drôle de vie. Je te demanderai toujours. Si je te pose des questions, qu'est-ce que tu diras? Et si je te réponds, qu'est-ce que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Si je sais que tu m'aimes la vie, que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Les uns les autres te t'aiment, tes drôles de poèmes, viens avec moi. Que tu aimes au fond de moi, me donne tous ces emblèmes, me touche quand même du bout de ses doigts. Même si tu as des problèmes, tu sais que je t'aime, ça t'aidera. Laisse les autres te t'aiment, c'est drôle de poème et viens avec moi.
Chanson, oui, sur ma drôle de vie dans ce haut de mon amour, drôle de planète, drôle de mer, ben nous poursuivons le voyage.
Il y a des arêtes là-dedans?
C'est possible, ça s'appelle du poisson.
CO2 mon amour.
C'est du sauvage ou de l'élevage?
Bah c'est du sauvage, c'est marqué là.
C'est quoi comme poisson?
Du dauphin.
Avec Denis Chessou.
Voilà, voilà. Bon, alors, nous sommes avec, vous l'avez bien compris, Hugo Verlhomme et son ouvrage « Demain l'océan, des milliers d'initiatives pour sauver la mer et l'humanité ». José-Manuel Lamarque avec nous, Frédéric Danhé également. Qu'est-ce que je vois, Hugo Verlhomme, aussi pour sauver la planète? Alors, c'est vrai qu'il y a aussi des capteurs aujourd'hui sur les voiliers et sur les planches.
Absolument.
Qui vont donner donc des tas d'éléments.
Ça aussi, ça fait partie des sciences participatives, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de gens qui sont passionnés par l'océan. Moi, j'ai vu la multiplication des plongeurs, et puis aujourd'hui, on a la transversalité. Alors, les plongeurs, ils aiment faire du surf, les marins, etc. Mais on a aussi la capacité de ne plus plonger ou surfer idiot, c'est-à-dire juste pour son petit plaisir à soi. Par exemple, sur une planche de surf, vous pouvez, votre dérive, vous avez une dérive qui s'appelle Smart Fin, vous la mettez, et elle a des capteurs qui vont enregistrer la salinité, l'acidité, l'humidité, la température de l'eau, des données très utiles pour les océanographes, d'autant plus que la zone littorale où il y a des vagues est la plus difficile à mesurer.
Oui,
et c'est là qu'évoluent les surfeurs. Donc ils sortent de l'eau et ils branchent leur appli sur le smartphone et ils envoient les données aux océanographes. Pareil sur les bateaux, on peut aujourd'hui sur un voilier simplement, puisque les voiliers vont souvent dans des zones où ne vont pas les chercheurs, en Antarctique, tout ça. Et bien sur la coque, on peut mettre des capteurs qui vont rapporter un certain nombre d'informations. Mais au-delà de ça, on est en train de créer des drones océaniques,
des armées de drones océaniques.
C'est Google et Rolls-Royce qui font ça.
Oui.
Et les fondateurs de Google et de Facebook qui sont en train d'investir des millions et des millions de dollars là-dedans, disent que ces données vont valoir plus cher que toutes les données satellitaires actuelles, plus Google Maps. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des drones qui sont totalement autonomes, qui peuvent traverser un océan tout seul pendant un an, soit par la houle, soit par le vent, et qui sont alors truffés de capteurs. Et ils arrivent à capter des choses incroyables, c'est-à-dire évidemment, au-delà de la température, salinité, acidité, pollution, etc. Par exemple, ils peuvent dire s'il y a des oiseaux de mer ou pas dans la zone. Alors vous allez me dire, mais comment ça? Eh ben, c'est la dilution du guano dans l'eau. Voilà.
Ah oui.
Et par exemple, vous parliez de pollution acoustique, mais à l'envers, on a aujourd'hui quelque chose qui s'appelle la bioacoustique. Parce qu'il n'y a rien de plus difficile de savoir si une zone océanique est habitée ou pas. Comment on fait? On va pas plonger, compter les poissons. Or, avec les hydrophones, aujourd'hui, on est capable, en écoutant les sons sous-marins, de discerner des crustacés, des poissons, évidemment des mammifères marins, des cétacés, tout ça. Et donc, les hydrophones sont constamment plongés sous l'eau. Ils envoient des informations toutes les X secondes aux gens qui vont devenir propriétaires de ces données et qui vont revendre une fortune. Donc, ça permet, en cas de pollution, de naufrage, de tsunami, de changement climatique, d'ouragan, ça permet d'avoir des données que personne aujourd'hui n'a, parce que les données satellitaires sur l'océan ne sont pas si fiables qu'on le croit. Par exemple, il y a un degré d'incertitude. Quand un satellite donne la température de l'eau, il y a un degré d'incertitude. Pareil pour l'amplitude des vagues et des choses comme ça. Donc ces drones océaniques, c'est vraiment le futur, c'est les vraies données de l'océan, on va les avoir dans un an, dans deux ans.
Et il y a aussi des drones sous-marins maintenant.
Oui, bien sûr. Pour l'armée notamment.
Alors, puisque je vous parle effectivement d'un degré de plus ou de moins, c'est quand même pas neutre du tout, surtout en matière climatique et non pas en matière donc de météorologie. Frédéric Danhé, je veux dire que aujourd'hui, où en est-on de ce réchauffement, puisque donc notre océan est un absorbeur à la fois de CO2 et va nous renvoyer aussi l'oxygène grâce au plancton. C'est quand même aussi grâce à lui que l'on peut respirer, ainsi que la biomasse. Mais c'est pas neutre parce que vous mettez de l'eau sur votre cuisinière, vous voyez bien qu'avec le réchauffement, vous avez de la vapeur d'eau, donc il y a une dilatation qui s'opère, donc ça va prendre plus de place. Il y a bien sûr la fonte, on va dire, du Groenland et qui vont ramener de l'eau dans le système. Il y a avant tout, peut-être aussi, la dilatation de l'océan.
C'est la dilatation, oui, comme la mer se dilate, donc elle est obligée de monter. On le voit, elle monte partout, et partout la mer érode naturellement les côtes, cette érosion est accélérée. Mais il y a deux choses, la mer est un absorbeur de CO2, certes, donc c'est un puits de carbone, mais un puits n'est jamais sans fond. Donc l'inquiétude, c'est de savoir à partir de quand on absorbera moins. Pour l'instant, ça va. Mais aussi quelque chose qu'on oublie, c'est que la mer, c'est avant tout un absorbeur de chaleur. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est entre 1 et 10% à peine de la chaleur que notre activité a communiquée à l'atmosphère. Ce qui veut dire qu'entre 90 et 99% de la chaleur communiquée à l'atmosphère par notre activité humaine a été absorbée par les océans. Sauf que ça ne durera pas infiniment. C'est-à-dire que le réchauffement climatique, c'est lié à 1 à 10% du phénomène, en fait. Voilà. Et l'autre inquiétude des scientifiques, c'est de savoir à partir de quand les océans accepteront moins de chaleur. Dès lors, il y aurait un emballement du changement climatique. La clé de voûte de notre adaptation au changement climatique, c'est bien les océans. Et on a les yeux rivés dessus. Et comme Hugo l'a dit, on manque de données. On ne sait pas grand-chose, en fait. Ça reste un immense inconnu. Et on ne sait pas grand-chose, notamment, à ce qui se passe au dialogue permanent qu'il y a entre la surface de l'océan et l'atmosphère. Il y a des échanges constants. Des échanges qui sont en partie induits par les organismes marins qu'on y trouve. Et finalement, c'est pas grand-chose. Donc on a intérêt à chercher et à mettre des sous sur la recherche.
Et alors pourquoi, José-Manuel Lamarque, pour vous, c'est, évidemment, ça fait partie de l'avenir. On le dit, mais ça se traduit comment? Pourquoi l'océan, en fait, c'est peut-être lui qui va nous sauver?
Bien sûr, ça va nous sauver, mais vous avez raison. Quand vous avez présenté tout cela, c'est de dire aussi, il faut de l'argent. faut aider les scientifiques, il faut aider l'Institut océanographique de Paris et de Monaco. Je prends le cas de Jean-Louis Etienne, il a un projet, j'espère que Jean-Louis est terminé. C'est une voile dérivante qui va dériver en Antarctique pour étudier les courants antarctiques. Jacques Rougerie, notre génie des océans, l'architecte des océans, il peut toujours pas la faire, sa voile. Il y a des gens qui sont prêts à faire, mais il manque toujours de l'argent. Et c'est ça le problème. Et bien sûr que la mer, les océans, c'est notre... Vous parlez du plancton aujourd'hui, avec le plancton Tara et d'autres, Tara, les coraux. Avec le plancton, aujourd'hui, on fait de la pharmacopée. On prend le cas des algues. Aujourd'hui, on fait mille et une choses avec les algues, y compris un projet de bouteille. À la place de soit une bouteille en plastique, ça serait une bouteille en algues. Mais pourquoi on n'y va pas? Pourquoi on reste, comme disait Tabarly, pourquoi on reste le dos à la mer? La mer, c'est pas seulement les vacances. Et puis, il y a aussi une chose très importante, c'est qu'il y a des gens qui naviguent sur mer, les professionnels, il y a les passionnés, hein. Et puis il y a d'autres, ceux qui passent le permis nautique sur la Seine, puis qui achètent un bateau. On sait que pour un propriétaire de bateau, les deux pires journées, c'est le jour où il l'achète et le jour où il revend. Ça sera les plus belles journées de sa vie. Voilà. Et puis entre-temps, on s'aperçoit que la Seine, c'est pas la mer, quand on est sur mer, on sort plus, on reste au port.
4 jours en moyenne.
Voilà, 4 jours en moyenne. Mais par rapport à tout cela, sur toute la France, il y a la SNSM, la Société Nationale des Sauveteurs en Mer.
Qui font un boulot formidable.
Formidable. Ce sont tous des bénévoles, des hommes et des femmes, des bénévoles. Et c'est 24 heures sur 24. Et c'est 7 jours sur 7. Et je peux vous garantir que même nos très grands navigateurs, ils peuvent vous le dire, quand ils ont vu arriver le canot de la SNSM, ils étaient bien contents. Et souvent, ce sont des gens qui donnent leur vie pour les autres. Le problème de la SNSM aujourd'hui, c'est quasiment tous les ans, comme dit Olivier Delagorre, son président. Mais c'est vrai, il va encore falloir trouver 50 millions. On a sauvé la SNSM il y a 2 ans, il faut recommencer. Il faut savoir une chose, tous les navigateurs, les plaisanciers, c'est que si vous n'êtes pas la SNSM, vous aurez des sociétés de sauvetage payantes.
Et, oui.
Et ça sera à la cote du bateau. Donc ça sera une facture. Là, la SNSM, c'est gratuit, mais il faut former les bénévoles, il faut former les sauveteurs, il faut acheter des canots. Ça coûte 50 millions, on a besoin de 50 millions d'euros pour les
baissé,
et les subventions, ça a baissé, exactement. Alors, une annonce, le 23 juin, sur toutes les côtes de France, vous êtes invité à faire 1 000 marins avec votre paddle, avec votre planche, avec votre bateau à la nage, 1 000 marins pour la SNSM, avec les gens de la SNSM, et c'est le 24 à Paris, il y aura une course de paddle du pont Henri IV jusqu'à plus soif avec la SNSM. Il faut trouver 50 millions d'euros. Mais Denis, il y a 1 million de plaisanciers en France.
Mais oui.
Si chaque plaisancier donnait au moins 30-40 euros, la SNSM, elle serait sortie d'affaires.
J'aime bien vos emballements, c'est formidable.
Non, mais merci, Denis.
Mais oui. La capacité de résilience des océans, ça aussi c'est quand même très intéressant. On sait que les océans prennent cher, la surpêche, les pollutions diverses et variées, le réchauffement, l'acidification, la radioactivité, vous le disiez, le tourisme, etc. J'en passe et les meilleurs. Il y a quoi? Il y a des effets de seuil? Qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui, Hugo Verlhomme? Parce qu'en même temps, on voit bien un ami commun qui est François Sarano, avec un type formidable sur les cachalots, etc. Ouais. Donc, montre bien que lorsque l'on fiche la paix vraiment aux mers et aux océans, ça repart assez vite.
Dès qu'on crée un véritable sanctuaire, parce qu'aujourd'hui, les zones marines protégées, souvent, en France, en tout cas, il y a 15 catégories de zones marines protégées. Donc, quand on dit oui, on a tant de zones marines protégées, il faut savoir à quoi ça correspond. La vraie zone protégée, c'est no take, no go. On n'y va pas, on prend rien. Parce qu'en France, on a des zones protégées, c'est juste ne pas jeter l'ancre dans les herbiers de Posidonie. Mais on peut venir pêcher, piller, etc. Donc il faut savoir de quoi on parle. Mais les vrais sanctuaires marins, par contre, on constate une chose que j'ai toujours un petit peu de résistance à dire, c'est que l'océan a une résilience phénoménale. J'ai une résistance à le dire parce qu'il y a des gens qui vont se dire « Ah bah alors si la résilience... »
Oui, bon, on peut continuer à se le reste.
Mais on a des sanctuaires... Par exemple, on a la République des Palaos qui est dans le Pacifique
alors,
Sud.
Alors c'est où ça? Oui,
c'est une petite république près des Samoa qui comprend, je sais plus, 300, 400 îles. Et ils se sont rendus compte que c'était leur plus grande richesse. Ils étaient pollués, etc. Donc ils ont d'abord fait un sanctuaire uniquement pour les requins. Et ils se sont aperçus qu'à partir de là, la vie se développait beaucoup plus. Eh bien, 80% du territoire des Palaos, maintenant, c'est entièrement un sanctuaire. Alors, il faut voir les images des fonds marins, c'est extraordinaire. Quand vous arrivez au Palaos, vous êtes obligé de signer sur le passeport « Je promets de ne pas saccager les fonds marins, de ne rien toucher, de ne rien prendre, etc. » Vous êtes obligé, sur l'honneur, de faire ça. Le dollar des Palaos, c'est 3 sirènes avec un mérou de l'autre côté, des étoiles de mer. Ils ont entièrement consacré tout, depuis plusieurs présidents, sur l'océan. Et aujourd'hui, il y a un afflux de touristes respectueux, tout ça fonctionne représente très très bien. L'océan, c'est une richesse. C'est vrai que quand on lui fout la paix, il est capable de choses incroyables. Et les pêcheurs commencent à comprendre que les sanctuaires sont des viviers, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller dans le sanctuaire, mais tout ce qui en sort, en fait, le sanctuaire, c'est un vivier fantastique.
Frédéric Danhé.
Ça, je l'ai vu, je l'ai vu en Méditerranée. Depuis l'interdiction des algues dans les herbiers de Posidonie, les herbiers sont revenus en moins de 15 ans. Le mérou est revenu, le corbe, poisson magnifique du Méditerranée, est revenu. Donc effectivement, les choses vont vite dès qu'on fout la paix à la mer. Après, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que les choses reviennent. Ça a été étudié par exemple dans le cas des marées noires. La faune revient, mais elle revient pas tout à fait pareil. Et c'est ce pas tout à fait pareil qui est important. Parce que ça crée une instabilité, ça crée une fragilité qui, des années après, peut déclencher par effet de seuil un effondrement.
José Manuel.
Et c'est la raison pour laquelle, pour les pêcheurs professionnels, Gérard Romiti, le patron du comité des pêches, il se bat pour la pêche du futur. Pour que les écoles qui accueillent les élèves qui vont devenir des pêcheurs, eh bien, que l'enseignement soit aussi un enseignement du futur. Que l'on sache ce que l'on pêche, comment on va traiter, comment on va faire. Ce soit aussi pas seulement des pêcheurs, mais des gens qui connaissent la mer, qui connaissent les poissons, qui connaissent les appareils à bord. Voilà. Le pêcheur du futur, ça sera aussi un environnemental. Ça l'est déjà, bien sûr.
Allons à Brest, comme l'agriculture, absolument.
Et à Bastia.
On va aller à Brest. Le Finistère, tout va très bien parce que Miossec. Ben voilà.
Parce que
Romy, Bastia, c'est ça. Avec Denis Chessou sur France Inter.
On n'a plus le temps de regarder comme ça le niveau de l'eau monter. On n'a plus le temps car on est déjà tout éclat poussé. On n'a plus le temps d'attendre que l'orage soit passé. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps. On n'a plus le temps car ce n'est plus possible de freiner. On n'a plus le temps car c'est comme si les jeux étaient déjà faits. On n'a plus le temps mais on fait comme si de rien n'était. On n'a plus le temps même si sous la pluie on sait danser. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui ne sont pas passés de loin à côté. Nous sommes les survivants, nous sommes les rescapés. Nous sommes de ceux qui l'ont un jour effleuré. On n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps, on n'a plus le temps.
Sec, hein. Il disait on n'a plus le temps. Ben oui, non, il faut agir, on est bien d'accord. Nous sommes, c'était le titre de cette chanson. Nous poursuivons un petit peu ce voyage, vous l'avez compris, on picore dans les océans aujourd'hui, on picore aussi dans le livre d'Hugo Verlhomme, demain, l'océan. Frédéric Danhé, oui. on va faire un petit focus là, qui en général est assez chaud.
Oui.
Énergie renouvelable, allez, éolienne, on y va, offshore.
Les éoliennes offshore, on a le plus gros gisement.
Parce que sur la Terre, de toute façon, c'est toujours
très compliqué. Mais c'est encore pire en mer, hein. C'est voilà, on a le plus gros.
Je
disons, on a le plus gros potentiel en matière d'énergie maritime, d'énergie offshore en France, en Europe, pardon. Et puis donc en 2009, on avait lancé un grand projet de bâtir entre 700 et 1000 mâts. Je rappelle que pour atteindre l'objectif de, voilà, on divise par deux la production nucléaire, il faudra entre 1000 et 2200 éoliennes offshore.
Non, mais en France, on ne va pas du tout éliminer la production nucléaire. Vous n'avez pas remarqué,
tout ça, c'était en théorie en 2009.
Et là-dessus,
mais je sais bien, c'est en 2009. Le premier appel d'offres en 2011. On a lancé en grande pompe le site du Tréport en 2013. On est en 2018. Rien, strictement rien. Et quand vous interrogez les industriels, en fait, ils sont en train tous de plier boutique parce qu'ils n'espèrent même pas le moindre mât offshore d'ici 2022. C'est quand même dramatique. On a 5500 km de côte. On a un potentiel énorme et on n'a rien. Je rappelle que c'est l'Europe qui détient le plus gros parc d'éoliennes offshore. 88% de la production mondiale. On a 4200 à peu près éoliennes offshore en Europe. C'est surtout le Royaume-Uni et l'Allemagne. En France, rien, strictement rien. Ça prouve deux choses. Premièrement, notre inculture maritime. Puis deuxièmement, le gouvernement s'en fout. Tous les gouvernements s'en foutent. Il n'y a pas de vision politique de l'énergie et donc de notre puissance maritime
nous
en France.
Nous sommes dans la loi la pluriannuelle sur l'électricité. Donc ils essayent d'avoir une vision quand même.
Ouais, mais elle est où?
Oui. Alors, donc, on fera l'émission, ça tranquillement, peut-être à la rentrée pour voir où on en est. José Manuel Lamarque.
Les énergies marines renouvelables, on trouve tous les spécialistes au cluster maritime, ils savent ça, ça très très bien. Le problème, c'est que là, on veut mettre des éoliennes fixes, par exemple, au large de Noirmoutier, des hectares et des hectares. Bon, l'éolienne, hein, il y a une partie submergée, une partie immergée. Donc, ça fait profond. Il faut fixer au fond de la mer, quand même. Il faut que ça fonctionne. Puis, on protège. Et donc, au pied du mât, on va mettre de l'aluminium. L'aluminium, c'est comme l'argent, Denis. Hein. L'argent, les Grecs et les Romains avaient des vasques d'argent, on mettait dedans des fruits avec de l'eau, parce que il y a les particules d'argent qui partent dans l'eau, et c'est très très bon pour la santé. Sauf que l'aluminium qui part dans l'eau, c'est très mauvais pour les poissons. Et après, vous allez manger des poissons avec de l'aluminium. Oui. Pourquoi pas des éoliennes tout simplement flottantes, puisque nous sommes, France, les créateurs des éoliennes flottantes. Qu'est-ce qu'on va s'emmerder à fixer des éoliennes, à emmerder tous les gens de Noirmoutier et de l'Île-Dieu, etc., alors qu'on peut la faire flottante, ça sera beaucoup moins de travail et ça sera le même rendement électrique. C'est exactement pour comme le territoire maritime français, près de 11 millions de kilomètres carrés, 10 millions et quelques, etc. Mais on le doit à qui, ce que le territoire maritime français, le deuxième au monde, grâce aux Outre-mer, sauf que dans l'état où sont les Outre-mer aujourd'hui, si on s'occupe pas des Outre-mer, on a vraiment du souci à se faire et on a besoin des Outre-mer pour notre territoire maritime.
Et ceci égale cela. Un retard à l'allumage en ce qui concerne les sargasses, là aussi on peut saluer nos amis à la fois de la Guadeloupe et aussi de la Martinique.
Exactement, et tout ça à cause du Brésil qui fait de la culture intensive, et on a foutu en l'air la mangrove, et la mangrove a laissé passer les sargasses. Faut pas oublier de dire une chose, c'est que les mériens sont pas des bobos, ni des pédagogues gogo. C'est des gens qui sont sur la réalité.
Voilà, Hugo Verlhomme, demain l'océan toujours, alors, donc énergie renouvelable, là aussi.
Alors, il y a quand même une
prenons un bon exemple.
Il y a une étude qui est sortie récemment au Danemark, il y a une grande ferme d'éoliennes offshore qui a été installée à Dogger Bank. Oui. Dogger Bank, c'est un endroit où il y a très peu de fonds, c'est des hauts fonds entre l'Angleterre, le Danemark, l'Allemagne, etc. Ils ont implanté depuis des années un certain nombre d'éoliennes pour étudier leur fonctionnement. Ils se sont aperçus déjà qu'en mer, surtout en mer du Nord, etc., elles fournissent 30% de plus d'électricité qu'à terre. Ça fonctionne beaucoup mieux en mer. Et puis l'autre surprise qu'ils ont eue après des années, c'est qu'en fait les embases de ces éoliennes se sont couvertes de quantités astronomiques de moules. Ces moules, mais alors vraiment par litre et par hectolitre, ces moules ont attiré évidemment à elles des petits crustacés qui ont attiré des poissons. Et donc maintenant,
des récifs artificiels.
Ces champs d'éoliennes qui en plus sont des sanctuaires puisqu'on peut pas y pénétrer, on peut pas y pêcher, eh ben sont gavés de phoques qui se promènent avec des poissons, etc. Donc quand ils y vont, non seulement on récolte de l'électricité, mais on récolte des moules et des coquillages et des choses comme ça. La mer est pleine de ces cercles vertueux. Et ils ont même fait un calcul qui est que si on faisait une ferme d'éoliennes de la taille de l'Inde, c'est théorique, eh bien on pourrait fournir de l'électricité à la planète entière.
Mais c'est sans aluminium aussi.
Ça serait beaucoup mieux.
En voilà. Aluminium, c'est pour nous envoyer sur les Bouches, sur Gardanne, etc., etc. Merci beaucoup, messieurs. Alors évidemment, vous avez compris qu'on avait picoré dans l'océan, parce qu'on peut prendre des 150 entrées. Hugo Verlhomme, demain l'océan, des milliers d'initiatives pour sauver la mer et l'humanité, c'est fondamental, aux éditions Albin Michel. José Manuel Lamarque, on vous retrouve à quelle heure à partir de lundi?
À partir de lundi à 5h du matin. Je voulais simplement 20 secondes vous dire.
Oula, 20 secondes.
Éternel Tabarly, Daniel J. Jacqueline Tabarly aux éditions du Chêne. Tabarly nous a quittés il y a 20 ans et il a été l'inventeur du folleur.
Et Frédéric, on se retrouve la semaine prochaine pour la dernière de Saut de mon amour de cette saison.
Et vive le canyon de Cabreton qu'on appelle le Gouffre.
J'irai chez vous pour le faire. Je vous promets. Camille Blanès, merci. Merci à Xavier Pessugia et à tout le monde. Et puis, là-dessus du Mont-Petit-Loup, demain 19h54.